Hey, bonjour et bienvenue au Chris Antisportif, épisode numéro 4. Ben oui, déjà. On a commencé ça, là, ça fait quoi, 2 semaines?
Environ, oui.
Environ 2 semaines qu'on a fait le premier épisode. Je pense qu'on s'améliore d'épisode en épisode. C'est beaucoup plus difficile que ça a de l'air. Surtout que on a toutes nos petites habitudes. Moi, je dis pas mal souvent, donc j'essaie d'éliminer ça. Chris, qui est encore mon co-animateur, Christopher Ramos, à côté de moi. Comment ça va, mon Chris?
Ça va très bien, toi?
Ben, ça va pas pire. Qu'est-ce que tu bois à soir, là?
À soir, ça va être la petite Miller High Life. Gracieuseté de mon ami Chris. Merci, Chris.
Chin. Moi, j'ai celle de Chin. Moi, j'ai celle qu'on a échappé des marches chez vous la dernière fois, un petit peu poqué.
Ah, ben, en autant qu'elle est encore vivable, c'est ce qui compte, right?
Ben, elle goûte. Mais je pense qu'elle goûte bonne.
Ah, ouais.
Ben oui, ça goûte encore bon. Écoute, aujourd'hui, tu voulais nous parler un peu de la Coupe du Monde qui avait eu le. Je pense que c'était-tu l'année passée qu'il y a eu la Coupe du Monde?
Ouais, c'est ça, exactement. Ben, dans le fond, de la manière que c'est. Normalement, que c'est censé être, si on veut, c'est à chaque 2 ans, tu aurais un best-on-best tournament, comme ils disent. Donc, à chaque 2 ans, soit les Olympiques ou la Coupe du Monde. Puis, pour la prochaine Coupe du Monde, dans le fond, moi, je vais juste un peu parler des changements que je ferai au niveau de du schedule et tout ça.
Ouais.
Fait que, il y a beaucoup de gens qui aimaient pas, par exemple, l'équipe européenne puis le Team North America parce que c'était, en anglais, on dit comme un gimmick team.
Ouais.
Fait que, dans le fond, moi, ce que je ferais, ça serait deux pools de 4 teams chaque, donc 8 teams au total. Dans le premier pool, j'aurais comme un pool nord-américain, donc j'aurais Canada et États-Unis dans le même pool, avec, mettons, je sais pas moi, la République tchèque puis la Slovaquie. Puis dans l'autre pool, j'aurais les équipes scandinaves comme Sweden, Finlande.
Le Danemark, bien sûr.
Le Danemark, ouais. Non, mais la Russie.
Je vais t'arrêter un petit peu. On va juste faire le survol de l'émission d'aujourd'hui.
Okay, après ça,
on pourra rentrer en détail. Juste bon. Un peu pour que les gens à la maison ou dans la voiture ou en marchant dehors sachent un peu ce qui s'en va.
Ouais.
Juste pour vous dire, présentement, on est en train d'écouter Dallas contre Toronto. Chris, qui est un fan de Toronto. Toronto perd 4-3 en milieu de troisième période. Et si vous l'entendez crier ou vous l'entendez sacrer, vous allez savoir c'est quoi le score.
C'est ça. Il y a un avantage numérique qui s'en vient, fait que ça se peut que je crie.
Ouais, Nylander a passé proche et s'est fait hockey.
Ouais.
Par John, je pense.
Bref.
Ouais, ben anyways. Donc c'est ça, on pensait parler premièrement de la Coupe du Monde. Deuxièmement, qui qu'on pensait qu'elle allait gagner quoi dans les trophées? On a fait une liste chacun, on va comparer ça. Puis à partir de là aussi, on va parler un peu. J'ai fait une liste des joueurs, donc mettons... Un joueur contre un tel, qui tu prends? Chris sait pas quel joueur que j'ai mis, donc il n'a pas pu se préparer. Donc il va pouvoir donner son avis là-dessus. Après ça, on va parler, si on a du temps à la fin, on va parler aussi des UFA à la fin de l'année. Savoir si, premièrement, ils vont signer avec leur équipe, avec quelle équipe que tu vois, si ça vaut la peine de les signer, puis quel type de contrat qu'on voit un peu. Fait que donc c'est ça, pour revenir à la Coupe du Monde, Chris,
ouais,
tu parlais fond, des équipes scandinaves.
C'est ça, ben dans le fond, moi ce que je disais, c'est que ça serait bien d'avoir deux pools, puis un pool, comme je disais, nord-américain, un pool avec les équipes scandinaves.
Ouais.
Puis ce que je ferais, c'est que j'aurais le tournoi comme d'habitude au mois de septembre, peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude. Puis dans le fond, le pool A, mettons qu'on l'appellerait le nord-américain,
ouais.
Ce pool-là, il serait joué à quelque part en Amérique
du Nord.
Du Nord, exactement. Soit aux États-Unis ou au Canada. Puis pour le pool B, dans le fond, il serait joué à quelque part comme Suède, Finlande ou Russie. Il serait prédéterminé, dans le fond.
Okay.
Puis ça serait juste pour les games préliminaires. Puis ensuite, pour les games élimination, ben ils choisiraient une destination. Puis ils pourraient alterner, mettons, à chaque 4 ans, dépendamment des pays qui sont intéressés à être équipe.
C'est
à
ça.
Être le
puis,
pays.
Puis la Coupe du Monde, c'est pas faut pas se mélanger aussi avec la Coupe du Monde. Dans, pas la Coupe du Monde, mais le World Championship, le championnat du monde qui est différent.
Ça, c'est joué à toutes les années, peu importe. C'est la WIHF, dans le fond, qui s'occupe de ça.
Juste avant les. Pendant les playoffs, là, après, je pense que après la première ronde, ça commence.
Dans le fond, les games préliminaires, c'est un petit peu, mettons, durant la première ronde. Puis ensuite, souvent, il y a des joueurs qui se joignent après que ce soit.
Après que ce soit fait éliminer.
Exactement, oui. Fait que, où est-ce qu'on était avec ça, là?
Ouais, ben c'est ça, tu disais que ça allait être joué, mettons, au Canada, aux États-Unis, en
Europe. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ben ça serait le fun pour, justement, pour les équipes, par exemple, scandinaves qui pourraient voir un petit peu plus leurs joueurs. Donc, tu sais, la Suède et la Finlande, c'est quand même relativement proche. Donc, mettons que ça serait joué en Suède, mais au moins les Finlandais pourraient aller voir les meilleurs joueurs finlandais du monde. Donc, ça, je pense que ce serait intéressant pour eux autres.
Ouais.
Puis, dans le fond, après ça, les games préliminaires, comme que je disais, ce serait un pays qui serait autre. Puis, JVR vient de compter son hat-trick.
Ouais, taux de chapeau pour James Van Riemsdyk.
Ouais, excuse-moi, une petite parenthèse.
C'est 4-4, là. 4-4 ouais, Dallas 4-4. Contre Toronto.
C'est ça. Fait que, ouais. Puis, dans le fond, moi, j'adopterais, vu que c'est la NHL qui s'occupe de ça, j'adopterais tout règlement NHL. Donc, plus de tir de barrage. Moi, je trouve qu'un tir de barrage, pour l'instant, dans la NHL, c'est limite correct encore pour décider des matchs. Mais je trouve que pour décider quelque chose comme un trophée, c'est vraiment atroce.
Mais même la NHL, je trouve que c'est pas... Tu gagnes pas une game avec ça, me semble.
Ben, tu sais, c'était nouveau au début, fait que je pense que ça intéressait les gens, mais je pense que maintenant, je sais pas si t'es du même avis que moi, Chris, mais le 3 contre 3, la part du temps, il est beaucoup plus excitant. Là, c'est sûr que les équipes, ils ont commencé à figurer comment jouer un petit peu plus défensivement.
Fermer le jeu, ouais.
Ouais, c'est un peu weird à dire, 3 contre 3, là, mais... Tu sais, fait que... Anyway, tout ça pour dire que même dans les games préliminaires, j'aurais quand même du 4 contre 4, mettons, si ça va en temps supplémentaire.
Ben, je trouve que dans la Ligue nationale, présentement, le 3 contre 3, c'est assez excitant. Puis, je pense que ça devient de plus en plus rare que ça s'en va en shootout.
Ouais, exactement.
Je pense que j'enlèverais carrément le shootout. Tu fais du 3 contre 3 jusqu'à temps qu'il y ait un but. Je pense pas que ça dépasse le 10 minutes, là. Déjà que les chances que ça se rende en shootout sont minimes. Si on rajoute un autre 5 minutes de plus en overtime, je pense pas que ça se rende jamais plus loin que ça. Ça rajouterait un peu de fun, puis au moins, je pense que les gens aiment plus regarder le 3 contre 3 que regarder le shootout.
Ben, puis... au moins, ça finit comme sur un hockey move, tu sais, c'est pas quelqu'un... Parce que dans un tir de barrage, tu peux avoir un quatrième ligne qui est super bon, mais dans le fond, il n'y a aucun impact dans la game.
Exactement.
Tandis que en 3 contre 3, au moins, faut que tu fasses partie un peu de la game. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est un peu mieux. Puis, dans le fond, moi, pour les games élimination dans la Coupe du Monde, j'aurais 4 contre 4 en overtime pour le premier 10 minutes.
Ouais.
Si jamais c'est nécessaire, à ce moment-là, je mettrais du 3 contre 3. Puis 3 contre 3, sudden death.
OK, puis pourquoi pas 5 contre 5? 5 contre 5, comme dans les playoffs dans NHL.
L'affaire, c'est qu'à 5 contre 5, je sais pas s'il y a nécessairement plus de risques, mais tu sais, ça pourrait être long, les overtime. Puis avec la saison qui va commencer au mois d'octobre, je sais pas si les propriétaires vont être prêts à allouer ce genre de restrictions là si on veut là. Parce okay. que surtout qu'il y a bien des joueurs qui vont avoir joué dans les séries puis ils vont probablement jouer beaucoup d'overtime, fait que je pense que ça pourrait peut-être les fatiguer et tout ça. Fait que je dis pas que le 4 contre 4 ou le 3 contre 3 est plus facile, mais je veux pas, c'est un peu moins tight checking.
Ouais, mais t'es frais jouer, ça serait au début de la saison,
ouais,
au mois de septembre.
Exactement. Fait qu'il serait pas nécessairement game shape, comme qu'on dit. Là.
Ouais, t'as raison.
Il y aurait
raison.
Un petit peu de,
bon
de rouille.
Ouais.
Mais ça a toujours été comme ça pour la Coupe du Monde, anyways. Fait que, anyway, pour revenir à la Coupe du Monde, ben, c'est ça, ce serait dans les games d'élimination, ça serait une game. Sauf pour la finale, je mettrais un 2-3 comme qu'il avait fait. Parce que, je veux dire, je trouverais ça un peu poche, mettons, pour une équipe comme Canada, s'il se prendrait contre une équipe, admettons, comme Allemagne,
ouais.
qui est une équipe Cendrillon.
Ouais.
Puis que, tu sais, une game, il y a n'importe quoi qui peut arriver. Canada peut. Frapper le poteau 8 fois dans la même game ou se prendre contre un gardien qui est super bon. Fait que,
ouais,
au moins, un 2-3, ça laisse...
Oui, mais c'est quand même... Tu perds. Écoute, peu importe,
oui,
peu importe c'est quoi
toi.
La game. Moi, j'aimais bien avoir Team North America, les jeunes, dans le fond, en dessous de 23 ans, puis Team Europe. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est des joueurs qui... Il y en a une couple là-dedans qui auraient joué pour leur pays respectif, c'est certain, mais c'est le fun de les voir...
Ben,
ensemble.
Team Europe, tu te rappelles, comme au début des games préliminaires, puis même en pré-saison, ils se faisaient rire d'eux parce qu'ils n'ont rien fait, puis finalement, ils se sont rendus en finale. Comme, n'importe quoi peut arriver dans une game. Tu pognes une ligne qui a une bonne chimie, puis ça peut t'amener.
Sais-tu à quoi Team Europe me faisait penser? Je peux comparer, mettons, Team Europe pendant ce temps-là aux Knights présentement, aux Las Vegas Knights.
Ouais.
Je trouve que c'est tous des joueurs que personne voyait être capable de jouer ensemble. Que cette équipe-là serait, ferait rire d'eux autres. Puis je pense que moi, plutôt, on pensait ça au début de la saison aussi. Là.
Ouais.
Je sais pas pour toi, mais moi,
ouais.
j'ai pensé ça. Puis c'est comme les. C'est ça, je disais. Donc, je trouve que c'est comparable aux Knights. C'est
mais
une équipe qui jouait bien ensemble, qui se donnait pour la victoire. Puis tout le monde poussait dans le même. pousser dans le même sens, dans le fond. Là.
C'est vrai, t'as un point là, mais pour revenir au North American, tu sais, t'aurais pas aimé ça, voir McDavid puis Crosby possiblement jouer sur un même power play. Mais dans ce tournoi-là, c'était pas possible, tandis que là, ça serait possible.
Oui, mais t'as pu voir Eichel et McDavid ensemble.
Ouais, c'est sûr.
Je pense que tu veux toujours voir... J'aimerais ça voir Crosby et Ovechkin jouer ensemble. Là, ou...
Ben, tu peux le voir dans les All-Star Games.
Oui, mais c'est pas pareil. Mais non, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Fait qu'il y aurait toujours certains joueurs que tu voudrais voir avec un autre. Là,
ben oui, ben oui.
Peu puis, importe. Là.
Fait que, anyways, grosso modo, tout ça pour dire que je pense que n'importe quel partisan de hockey, t'as besoin de voir un best-on-best à un certain point.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a toujours les World Championships, mais ça... C'est pas tous les joueurs qui veulent parce que la saison est finie. Les équipes qui ont pas fait les séries, il y a des joueurs qui tombent agent libre. Fait que ça ne tente pas de prendre un risque de se blesser.
Ouais, mais ça fait quand même moins pitié que les Olympiques qu'on a eu cette année. Là.
Ouais, c'est sûr. Puis là, ben, avec les prochains Olympiques qui vont être en Chine, je suis pas certain que Bettman et les propriétaires vont s'entendre sur un deal pour qu'ils soient là. Fait que je pense que la Coupe du Monde, ça reste une alternative
quand même viable,
assez bien. Puis ça, ce serait ma proposition là, dans le fond. Là. Fait que, je sais pas si l'affaire de jouer deux dans deux pays complètement différents pour les deux poules, ça, je pense que c'est un peu...
Je pense que ce serait pas nécessairement fair pour certaines équipes, parce que les équipes qui joueraient en Europe, il y aurait le décalage horaire. Il faudrait que ça commence beaucoup plus tôt en Europe ou vice-versa pour se donner un temps tampon, parce que sinon, les équipes ils partiraient de là-bas, joueraient des parties, ça reviendrait ici, le décalage, ou vice-versa, nous ici, là-bas... je pense que ça pourrait être un peu difficile. Puis je pense que c'est la raison pourquoi que présentement, quand il y a des Coupes du Monde au niveau du hockey, que ce soit junior ou que ce soit international au niveau des joueurs joueurs de ligue nationale, qui font pas ça dans des continents différents, ils font ça premièrement dans le même pays. Puis si c'est pas nécessairement dans le même pays, ça peut être Toronto, Buffalo ou Toronto, Montréal, des choses comme ça, où c'est des villes qui sont extrêmement proches. Puis je pense que ce serait mieux comme ça que de les faire voyager trop.
Ouais, ben moi, en tout cas, c'est sûr que Toronto, ça avait eu du succès parce que je veux dire, c'est une ville qui va toujours. Je veux dire, les gens vont toujours payer pour voir du hockey, mais j'aimerais peut-être voir ça, mettons, si c'est au Canada ou aux États-Unis pour le pool A. J'aimerais ça voir dans peut-être un plus petit marché, tu sais, comme quelque chose. Ça pourrait même être une ville qui n'a pas nécessairement une équipe de la NHL. Juste...
Genre Moncton dans ce style.
Ouais, c'est ça. Juste, tu sais, ça leur donnerait quelque chose à voir là. Je pense que j'espère peut-être quelque chose qui ne serait pas vraiment
surtout,
réalisable.
Surtout les World Junior. Les derniers World Junior à Buffalo, c'était pratiquement vide. Même quand c'était à Montréal.
Moi, j'étais allé voir la game semi-finale avec un de mes amis, Mathieu. Puis c'était Canada-Suède qui est quand même. Je veux dire, deux des meilleures nations du monde.
Ben oui.
Puis je te dirais que le 3 quarts du 300 était vide. J'en revenais pas. C'était.
Ben, premièrement, les billets sont extrêmement chers. Ridiculement chers. Même, il va falloir qu'ils s'ajustent avec ça.
C'est dans le temps des fêtes. C'est pas tout le monde qui va aller voir ça. Mettons, ça coûte cher. Mettons, t'as une famille à aller voir ça. Là. Fait que je pense qu'il y a un peu ce facteur-là.
Qu'est-ce que t'as pensé de la game qu'ils ont joué à l'extérieur à Buffalo au stade des Bills?
Je pense que le concept était cool, mais. Tu sais, avec la neige en plus cette journée-là, il y a neigé, c'était fou.
Ouais.
Par contre, je pense pas que ça donne la meilleure.
La meilleure game d'hockey.
Ouais, c'est ça. C'est pas là que tu peux vraiment démontrer le plus ton talent, mais je pense que pour une game en ronde préliminaire, je ferais peut-être pas ça à chaque année, mais je pense qu'il pourrait continuer à évaluer ça.
Ben, c'était rempli par contre.
Ouais, c'était.
Quand ils jouaient soit au KeyBank Center ou au Arbor Center, c'était pratique. Pas que c'était vide, là, mais il y avait pas beaucoup de monde.
Non, mais est-ce qu'en plus, cette journée-là, il me semble qu'il y avait un gros... Dallas vient de scorer. Ce qui a scoré, Nick Ritchie, whatever. Mais bon, c'est ça. Je pense qu'il y avait eu un gros snowstorm cette journée-là.
Puis il y avait un feu sur le pont, sur Peace Bridge, où les gens traversent de Niagara Falls à Buffalo. Fait qu'on peut peut-être passer... On peut peut-être passer à la section là, des trophées, dans le fond, voir qui qu'on pense qui va gagner quel trophée. On peut commencer avec le Hart Ross, qui est le trophée pour le meilleur pointeur de la Ligue nationale. Présentement, c'est Kucherov qui a le plus de points avec 91 points, 34 buts, 57 passes. Penses-tu qu'il va se faire dépasser, Chris?
Écoute, moi, ben, je vais te dire, dans mon top 3, j'ai Kucherov, Malkin... Puis troisième, j'ai McDavid.
Ben, c'est les trois. Les trois. T'as
Kucherov. Les trois.
Ouais, t'as okay. Kucherov qui a 91 points. Malkin qui a 87 points. Puis McDavid qui a 84 points.
Écoute, je serais pas surpris de voir McDavid finir premier, malgré que Kucherov a quand même une petite avance en ce moment. Juste parce que McDavid, c'est lui qui joue le plus dans ces trois-là. Ouais. Il joue 21 minutes par match, qui est quand même beaucoup pour un attaquant.
Mais il y a quand même plusieurs points de retard sur Kucherov, puis il y a une game de jouer de plus là.
Ouais, mais tu sais, McDavid, je veux dire, c'est le joueur qu'Edmonton s'est fit dessus, tandis que Tampa Bay puis Pittsburgh, ils ont un line-up plus...
Non, oui, il y a plusieurs joueurs là.
Exactement, mais en même temps, tu sais, Kucherov sur le power play quand il joue avec Stamkos, Edmund et tout ça, ben... C'est sûr que ça lui donne des bons...
Ça ramasse des points.
Ouais, ça ramasse des points faciles, si on veut, entre guillemets. Fait que moi, je pense que je vois Kucherov rester là. Je sais pas pour toi.
Ouais, moi aussi, je donne le Hart Rost à Kucherov.
Fait que ça serait son premier, dans le fond, en carrière. Là. Pas pire pour un gars qui fait, je pense, si je me trompe pas, 4.5 cette année.
Ouais, ben,
bon écoute, coup d'Eiserman encore.
C'est toujours des bons coups d'Eiserman. Le Calder, c'est qui que tu vois?
Ben, le Calder, c'était proche.
Calder, c'est pour la recrue en passant.
Ouais, c'est ça. C'était proche entre, d'après moi, Brock Besser puis Matt Barzal. Mais là, vu que Besser il est blessé, moi je le donne à Barzal. Fait que j'ai quand même mis Besser dans mon top 3 avec Clayton Keller. Ouais. Keller, je sais pas si y a du monde qui mettrait
Phoenix.
Ouais, c'est ça, il y a du monde.
Arizona.
Il y a peut-être du monde qui mettrait McAvoy ou peut-être Isher, quelque chose comme ça. Mais je trouve que Keller il s'en tire quand même assez bien avec les joueurs.
Les joueurs.
C'est ça.
Mais non, je pense que c'est Barzal qui va gagner ça haut la main. Je pense pas qu'il y a aucun autre joueur. Il aurait fallu que Besser ait une méchante bonne fin de saison, une fin de saison de fou.
Mais qu'il soit en santé, probablement ça aurait aidé, mais je pense qu'on peut dire Barzal puis Besser, c'était pas deux gars qu'on voyait même dans le top 3 au début de l'année. Sûr. Fait que c'est quand même des bonnes.
Ouais, mais avec la chevelure de Besser, c'est ça qui l'a blessé. Là.
Ah, ça c'est possible, ouais.
Écoute. non, mais all joke apart, je pense que Barzal, il l'aurait gagné de toute façon parce que Besser aurait fallu qu'il y ait une fin de saison extrêmement forte pour venir voler ça à Barzal. Ouais. Barzal est dominant avec Islanders.
Puis l'équipe
Besser
est vraiment...
excellent.
Puis Barzal, l'affaire, c'est que l'équipe est extrêmement offensive. Fait que,
ça l'aide aussi.
C'est ça, exactement. Fait que, je pense qu'on est d'accord sur celle-là.
Parfait. Fait que, le Hart Rost, tu le donnes à Kucherov aussi, right?
C'est ça, le Hart Rost, Kucherov.
Calder à Barzal.
Ouais.
On va-tu finir par s'astiner un petit peu?
Ben, je pense qu'il y avait peut-être à quelque part.
Norris, c'est pour le meilleur défenseur de la Ligue nationale.
Norris. Ben, vas-y, dis-moi qui t'as dans ton top 3 à voir.
Ben, j'ai pas mis le top 3. Moi, j'ai juste mis à qui je le donnais.
Ok, ben vas-y.
Je le donne à Hedman.
Ok.
Oui, Klingberg a une excellente saison. Mais.
Overall,
je suis pas d'accord de donner toujours le Norris au défenseur qui a plus de points. Oui, c'est important d'avoir des points, mais un défenseur, ça le dit dans le
monde. Carlson l'a gagné à chaque année.
C'est ça. C'est fait pour défendre aussi. Il faut que tu aies un bon. Tu sais, une bonne moyenne entre les deux. Là. Donc, c'est pour ça que je le donne à. Edmund à Tampa Bay. Puis toi?
Ben, ça sera pas sur celle-là qu'on va s'assassiner. Moi aussi, je le donne à Edmund. J'avais Klingberg aussi qui était là à cause des points puis la saison qu'il a. Lui aussi sur un excellent contrat. Puis troisième, j'avais Subban qui a un petit peu moins de points que d'autres.
Subban!
Il a 15 buts quand
même. Puis c'est même pas le meilleur défenseur de son équipe.
Ben, ça, c'est. On peut argumenter là-dessus.
Non, c'est Yeoman Yossi qui est le meilleur défenseur de ce club-là.
Je sais pas si. Défensivement, oui, mais offensivement, Subban, je pense qu'il est une coche au-dessus. Là.
Ben oui, mais c'est facile d'être offensif quand t'es pas capable. Quand tu joues pas extrêmement bien défensivement, c'est toujours facile de penser offensivement quand dans ta tête, c'est offense, 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 offense. Un défenseur, faut que ce soit 50% offense, 50% defense.
Mais on s'entend qu'un
Norris. Il y a aussi, c'est comme ça qui est.
Ouais, mais il y a aussi, est-ce qu'il a déjà gagné un Norris?
Mais
il va jamais. Là, on parle de Norris.
Subban a gagné Norris quand c'était la moitié de saison. Come on, c'est pas la même chose partout.
Ben, on s'entend-tu pour dire par exemple que le Norris est quand même donné à. Je dirais, un défenseur de 30 points, il va jamais gagner le Norris.
Non,
soit plus 50, il va jamais le gagner.
Je suis bien d'accord, mais par contre, ça devrait peut-être être comme ça. Pourquoi pas? Ben, pourquoi ça devrait être toujours le défenseur qui a le plus de points?
Je pense que Edmund, c'est vraiment un bon compromis entre. Attaque et défense, c'est vraiment le défenseur le plus complet cette année. Fait que, là-dessus, on est d'accord. Là,
ouais, mais tu veux pas rester Subban, hein? T'aimes pas ça, la confrontation.
Ben écoute, je pense que 15 buts pour un défenseur, peu importe qu'il soit bon ou pas bon en défensive, c'est quand même très fort. Puis Nashville, oui, ont des bons défenseurs, mais les attaquants, c'est pas nécessairement la crème de la crème. Je veux dire, c'est quand même le threat sur le power play, puis toutes les équipes le savent que c'est lui. Puis il réussit quand même à ramasser des points puis à compter des buts. Fait que moi, c'est pour ça que j'allais dans mon top 3, là, dans le fond.
Non, tu vois, je vois pas ça partout comme toi, parce que sinon, tu peux prendre un gars comme Gostisberg, tu peux prendre un gars comme Carlson, John Carlson, Eric Carlson, qui serait meilleur que Subban quand même. Je comprends pas pourquoi tu as mis Subban dans ton
top. Ben, Subban, de tous ceux que tu m'as nommé, cette année, il est meilleur défensivement qu'eux autres. Fait que ça, je pense que c'est la raison.
Pas sûr de ça, moi.
Ben, en tout cas, il est meilleur Carlson, Eric.
Je suis pas sûr qu'il est meilleur que John. Je suis pas sûr qu'il est meilleur que John. Puis je suis pas sûr qu'il est meilleur que Shane Gostisberg. Gostisberg a eu une mauvaise saison l'année passée défensivement. Mais je pense que Gostisberg est un joueur défensivement un petit peu plus meilleur que Subban. Subban est un joueur extrêmement offensif, on va se dire.
Ben, Gostisberg, mais quand il est rentré dans le mur? Non, quand il est rentré dans la ligue, c'était un gars extrêmement offensif, puis là c'est sûr qu'il développe un peu plus de structure défensivement, de structure là, dans le fond il est plus structuré, mais tout ça pour dire que moi j'ai quand même Subban dans mon top 3, fait que
c'est ça. Ben, c'est moi l'animateur, puis c'est toi le spécialiste qui disent.
Ben écoute, je suis sûr qu'il y a bien des fans qui vont écouter notre émission qui seraient d'accord avec moi.
Des fans de Montréal.
Ouais, bon point. Mais
Trophée Maurice Richard, le meilleur buteur de Ligue nationale. Je le donne à Ovechkin, tu vas probablement faire la même chose.
Ouais, j'ai hésité entre lui et Laine. Laine, il est quand même sur un gros streak en ce moment.
Ouais.
Son équipe, je pense, qu'il est un petit peu meilleure offensivement, malgré que Ovechkin, peut-être son trio, il est meilleur. Puis Laine, il joue pas nécessairement avec Scheifele et tout ça. Donc, mais Scheifele est blessé présentement. Mais ouais, je pense que la constance d'Ovechkin va faire qu'il l'emporte. Il y a Malkin aussi qui est quand même pas loin, mais Malkin, il est un petit peu moins un franc-tireur que Ovechkin puis Laine.
Tu vois-tu Ovechkin dépasser Gordie Howe au niveau des buts?
Gordie Howe, peux-tu me dire il est à combien de buts?
Je pense qu'il faut un autre 200 buts, je pense, à Ovechkin. Okay. Pour environ ça.
Gordie, je pense que oui, mais Wayne, ça va être difficile. Ça serait possible.
Non, Wayne oublie ça.
Ben, écoute, j'ai écouté l'autre jour, dans le fond, qu'il faudrait qu'il ait en moyenne 37 buts par année jusqu'à, je sais pas trop quel âge qu'il disait, mais quasiment jusqu'à la fin de sa carrière. Fait que ça serait quand même possible, mais bon, on verra qu'est-ce qui va arriver là.
J'essaie de chercher ici les stats. On pourra en reparler un peu tantôt là.
Ouais.
Tu vois Ovechkin présentement, en cherchant un peu
rapidement. Il reste une minute et demie dans la game là, c'est en 5-4
Dallas.
Puis il n'y a plus de gardien pour Toronto, fait qu'on va voir s'ils sont capables de créer l'égalité, ça serait quand même
pas mal. Il y a 600 buts Ovechkin, il y en a-tu scoré d'autres? Parce qu'il me semble qu'il a scoré, il n'est pas en 602 ou quelque chose comme ça?
Je pense pas, non. Je pense qu'il est à 600 exactement.
Il est à 600 exactement.
Ouais.
Je vais regarder voir Gordie Howe au niveau des buts.
On va prendre une mini-pause si on veut.
On check ça, voir Gordie Howe.
Ah, Hyman, pourquoi tu donnes la puck?
Goal! Parce que c'est sa job, Hyman. Pourquoi qu'il joue dans les dernières minutes?
Ben, parce que c'est un gars qui va pogner la fuck dans le coin.
Tu vois, là, il manque 201 buts à Ovechkin. Ovechkin a 32 ans. Fait que c'est soit que les 4 prochaines saisons, il score des 50
buts. Et quel âge, Ovechkin?
Ovechkin a 32 ans.
Ouais, il faudrait qu'il joue.
Mettons qu'il reste 7 ans à Ovechkin, qu'il l'amène à 39 ans.
Ouais, mais là, on parle-tu d'un gars qui va compter 40 puis 50 buts à chaque année? À un moment donné, il faut que tu t'attendes à ce qu'il baisse un peu.
Ben, c'est ça, Ovechkin. Tant qu'à moi, dans les 4 prochaines années, Ovechkin peut scorer entre 30 puis 40 buts.
Mais je pense après ça va descendre un peu.
Ben, c'est ça.
Malgré qu'il va toujours être là sur le power play, ça, c'est toujours un spot qui va être là pour lui. Fait que
mettons que tu lui donnes 40 buts pour les 4 prochaines années.
Ouais.
OK?
Ouais.
Fait qu'il va tomber à 160 buts, il va y en manquer 40. Es-tu capable d'aller chercher 40 buts à 37, 38, 39 ans?
Je pense que c'est possible, ouais.
Je pense que oui. Tu penses-tu qu'il est capable ou tu penses pas qu'il serait capable, toi?
Si j'avais à bêter, je dirais que non. Juste parce que je pense qu'à un moment donné, il va régresser, je veux pas.
Ouais, mais ça fait longtemps qu'on pense que Ovechkin va régresser.
Ouais, écoute, au début. Oh yes, ils viennent de compter, puis il reste 15 secondes. Je sais pas ouais. qui a compté, mais.
Van Rimsdijk, encore.
Je pense encore son quatrième but
du match.
Fait que ça a l'air qu'on s'en va en prolongation. Wow.
5-5 Dallas-Toronto.
Grosse game offensive. Fait que non, c'est ça. Si on veut peut-être continuer dans les autres catégories.
Ouais, qui Vizina. Meilleur goaler.
Fait que toi, t'as-tu fait un top 3 ou c'est tout?
Non, j'ai juste fait un joueur. Okay. Ouais, ouais.
Moi, j'ai fait des top 3. Moi, dans le fond, je le donnerais à Rene, moi, Picker Rene. Toi?
Écoute.
Tu l'as-tu qu'on va s'assumer?
C'est le seul que j'ai mis deux joueurs.
Okay. Okay.
J'ai mis oui Pekka Rinne parce que j'adore ce goaler. Il a une saison extrêmement excellente saison. Mais j'ai mis Fleury aussi.
Ah ouais?
Je pense que tu peux pas passer à côté de la saison que Fleury
a. Il était blessé, moi c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 3. S'il avait joué un petit peu plus de matchs, je l'aurais mis là.
Ouais, mais il a joué quand même assez de matchs. Puis il est assez solide cette année. Il y a une équipe en avant de lui qui est pas folle, mais écoute, il fait les arrêts
comme
qu'il a besoin.
Comme tu dis, Julien,
la défense à Nashville, c'est une défense de fou, tandis ouais. qu'à Las Vegas, c'est loin d'être comparable. Fait que je pense que je donnerais le Vizina à Fleury.
OK.
Je pense pas qu'on va s'astiner sur Rinne, parce que si c'est Fleury, je suis content. Si c'est Rinne, je suis content.
Mais moi, j'avais même pas Fleury dans mon top 3. Moi, dans le fond, mon deuxième, c'était Vasilevskiy, juste parce que, je veux dire... Oui, il y a un bon club devant lui, mais il y a quand même 40 victoires. Il y a quand même un des plus hauts save percentage.
Ouais.
Moi, j'étais pas sûr qu'il était capable de goaler à ce niveau-là quand ils ont échangé Bishop l'année passée. Mais
moi, j'étais certain.
Je pense qu'il montre que c'est un gardien de premier plan. Puis en troisième, mais j'ai un petit peu de hometown, Jimmy Anderson.
Oh, come on.
Quand même, avec 33 victoires, un save percentage de 920 qui est très près de Vasilevskiy. Puis la raison pourquoi je l'ai mis dans le top 3 versus les autres gardiens.
Ouais.
C'est lui qui a arrêté le plus de pucks dans la Ligue nationale, puis il dépasse des gars comme Vasilevskiy puis Renin qui jouent environ le même nombre de matchs de loin. Il a dépassé d'au moins 100 ou 200 rondelles de plus. Fait que, quand tu comptabilises ça à la fin de l'année, ça fait quand même beaucoup de pucks de plus à arrêter. Fait que, je pense que si tu enlevais Anderson des Maple Leafs et tu mettrais un gardien average, je suis pas sûr qu'ils seraient où est-ce qu'ils sont présentement, parce que à part de quelques défenseurs, la défensive, c'est pas extraordinaire. Là.
Mais tu regardes, là, si mettons, pour comparer un peu, là,
ouais.
Tu vois, le goals against average, t'as Carter Hutton, qui est un goaler numéro 2 des Blues.
Ouais.
Mais tout de suite après, t'as Fleury avec 2.15.
On s'entend, les goals against puis le save percentage, oui, peut-être Carter Hutton, il est au début, mais il a probablement joué le minimum juste pour être dans la catégorie.
S'entend que Fleury, dans cette catégorie-là, c'est là qu'il est pour vrai. Tu regardes Pekka Rinne qui est à 2.25.
Ouais.
Avec, on s'entend, avec une défensive qui est meilleure que Vegas. Fait qu'avantage Fleury pour le goals against average. Fait que tu regardes le save percentage, Carter Hutton qui est encore premier, mais on le comptera pas. Qui est deuxième à 930 de save percentage chez Fleury.
Ouais, mais le save percentage, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux mieux évaluer un gardien là-dessus. Goals against, je trouve que ça reflète un peu l'équipe au complet. J'apporterais pas vraiment ça comme argument, peu importe le gardien. C'est sûr que si t'as un goals against d'environ 2, ça regarde bien sur une fiche, mais ça n'indique pas nécessairement quel genre de gardien que t'es.
Ben, okay. Dans un certain sens, oui, parce que Fleury joue extrêmement bien, puis Vegas laisse pas beaucoup de buts, mais ils ont quand même pas une défense de fou, là, tu sais.
Non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Mais ouais, je pense que Fleury, s'il avait joué un petit peu plus de matchs, ça aurait été correct, là.
Ok, c'est bon. Au niveau du Hart Memorial MVP, MVP de la ligue, c'est qui que t'as?
Je te donne juste mon MVP ou...
Ben, tu peux donner ton top 3 si tu veux. Là.
Écoute, le Hart, ça va vraiment dépendre. Si Colorado fait les séries, je le donne à McKinnon.
J'ai exactement la même
affaire que toi.
Exactement
par contre, comme qu'on avait parlé dans le fond, pas le dernier podcast, mais l'avant-dernier, le deuxième dans le fond... Je pense que Colorado fera pas les séries. Je pense qu'ils vont juste arriver un petit peu short. Fait que je pense que t'as pas le choix de le donner à Kucherov avec la saison qu'il y a là.
Écoute, l'affaire c'est que le MVP c'est le most valuable player to his team.
Ouais.
Okay.
Fait que tu pourrais le donner à McDavid directement parce qu'on s'entend que c'est de loin le gars le plus important.
Oui, mais il fera pas les playoffs.
Ok, fait que toi, d'après toi, le Hart.
Il est même pas dans le contender. Là. Ils feront pas les playoffs, c'est certain. Kucherov, il y a Stamkos avec lui. Malkin, il y a Crosby.
Ouais.
McDavid, il y a Draisaitl, comment?
Ouais, ils jouent pas vraiment ensemble, juste parfois.
Mais quand même, Crosby et Malkin ne jouent pas nécessairement ensemble non plus, mais ils sont quand même là. Quand tu as quand t'as un gars comme Crosby, il va jouer contre la première ligue, ligne no ball, ou la shutdown line no ball, puis ça va laisser de la place à Malkin, c'est certain. Mais MacKinnon, à part Rantanen, puis même là, on va se dire, le Rantanen, c'est pas... écoute,
ben,
c'est pas mon gars, le joueur, là.
Ils ont quand même Landeskog aussi, puis ils ont plein de bons jeunes joueurs comme JT Comfort.
Oui,
puis...
mais c'est pas Crosby, c'est pas Stamkos,
mais non, mais...
c'est pas Draisaitl.
Non,
là.
C'est ça.
MacKinnon, il est tout seul, fait que si Colorado font les playoffs, t'es tout obligé de donner à MacKinnon.
Fait qu'encore une fois, on est d'accord sur un autre trophée.
Ouais, je suis tanné d'être d'accord avec toi.
Ouais, fait que là, on...
Sans qui, meilleur attaquant défensif?
Ben, je vais donner mon top 3, encore
ouais.
une fois. C'est à qui je le donnerai cette année? Écoute, c'est sûr que tu peux le donner à chaque année, tu peux le donner à Bergeron.
Il a été blessé cette année.
Ben, il a été blessé, oui, mais je veux dire, c'est quand même un joueur dominant défensivement. Les mises au jeu sont... Il est tout le temps solide, ses mises au jeu. Puis offensivement, je pense qu'il est très sous-estimé. Fait que
ouais.
Il va toujours être là. Moi, je le donnerais à Barkov. Ce serait le gars que je le donnerais.
À Barkov, hein?
Je pense qu'il a toujours eu le potentiel, mais il était tout le temps blessé à chaque année. Puis cette année, il y aura une éclosion avec les Panthers. Fait que moi, je
c'est vrai que Barkov a une excellente saison.
Mon troisième, ça a été Couturier, que lui, dans le fond, il a toujours été très solide défensivement. Mais veux pas, je veux dire, quand tu gagnes le Selke, il faut que tu ramasses une coupe de points. Puis cette année, avec Philadelphie, il est quand même très haut. Là.
Ben, je pense que je vais te surprendre, puis ça me surprendra pas que tu sois d'accord avec moi. Moi, je le donne à Hanzi Kopitar.
Ah ouais, ok. Ben...
Je pense que Kopitar a une saison de fou cette année. C'est un joueur qui est extrêmement bon dans les deux sens de la patinoire. Barkov a une excellente saison, mais je pense que Kopitar le mérite cette année.
Mais je pense que des gars comme lui et Taves comme sont tout le temps dans la conversation, mais moi je le donne juste à Barkov parce que ça a tout le temps été un joueur, je veux dire, on s'entend en Floride, qui regarde les games des Panthers, c'est pas grand monde. Fait que
pas grand monde.
T'en entends pas beaucoup parler, c'est un joueur très sous-estimé. Puis avec l'éclosion qu'il y a eu en attaque, je pense qu'il y a besoin d'être en conversation si c'est pas le gagnant. Fait que...
Ben, tu vois, Barkov, présentement, son plus-minus, c'est 7. OK? Plus
ouais,
7.
Chris,
il a 69... Oui, mais attends. Il a 69 points.
OK.
Hanzi Kopitar a 76 points, puis il est plus 14. Oui, c'est pas nécessairement le même club, mais quand même, c'est les gars qui font le club,
puis on Kopitar, s'entend. On s'entend, c'est quand même plus un gars d'expérience. Fait qu'il y a quand même une couple de saisons en avant de Barkov. Mais
moi, je pense que c'est Kopitar, mais écoute, au moins, on a un point différent.
Exactement. On verra à la fin de l'année qui a raison.
Jack Adams, je pense pas qu'on va s'astiner longtemps là-dessus.
Non, ben, je peux quand même prendre le temps de te dire mes top 3. Ben, je pense que Jack Adams, c'est signé, délivré Gérard Gallant.
Ah oui, moi, je pensais que c'était Claude Julien.
Ben, écoute, si on le donnerait pour le meilleur double menton, peut-être que Claude Julien gagnerait. Mais là, on parle du meilleur coach.
Ah oui, OK.
Sorry Claude, t'es un excellent coach, t'es juste prêt avec une équipe de marde. Mais bon, au moins.
Directeur général de marde.
Au moins, il te paye quand même bien, fait que tu peux dormir bien le soir.
Ben oui.
Fait que, ouais, c'est ça, le Jack Adams, dans le fond, évidemment, Gallant. En deuxième, j'avais John Cooper, t'as pas le choix, c'est le meilleur team de la ligue.
Ouais.
Oui, il y a des bons joueurs, mais des fois, faut quand même savoir comment aligner ses trios pour que ça marche, parce que des fois, tu penses que c'est bien facile, mais. Ça prend quand même une certaine structure pour que ton équipe joue bien.
Ouais.
Puis après ça, j'avais dans le fond, là, j'ai mis 3 et 4 parce que je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent. Fait que j'avais le coach de Colorado, John Bednar, comme un peu Vegas, personne ne les voyait là. Puis
ouais.
Quatrième, John Hines, qui est le coach des Devils, dans le fond. Lui aussi, je pense que c'est
ouais.
deux équipes.
Pourquoi pas Bob Bugner aussi, Floride?
Ben, c'est parce que Floride, probablement, est-ce qu'ils vont faire les séries, je suis pas sûr. Ben, Bednar et Hines non plus. Mais Floride, je pense qu'ils ont un petit peu plus de joueurs expérimentés qui ont été là quand même pendant une couple de saisons. Tandis que Bednar et Hines, ils ont deux clubs très jeunes. Puis c'est sûr que tu pourrais y aller. Moi, c'est sûr que le Jack Adams, à part Gallant, lui, on y va tout à cause
de l'équipe de Saint-Rion. On y va Gallant, c'est
mais,
certain.
Mais tu sais, tu pourrais mettre, mettons, toutes les meilleures équipes, tu pourrais mettre le coach parce que le coach a quand même. Le coach est quand même une des raisons pourquoi le club est là.
Ouais.
Mais j'aime plus voir des équipes que le monde voit pas. J'aime plus mettre le coach ces coachs-là, dans le fond, dans la conversation.
Okay. Mais c'est, ouais, c'est Gallant qui va gagner, c'est, ben oui, ça, c'est 100% écoute, sûr. Je disais Boomer juste pour rajouter un peu dans la conversation.
Ouais.
General Manager of the Year, le meilleur directeur général de l'année.
Toi, t'es qui?
Ben, j'ai George McPhee. Ouais, je pense que t'es obligé d'y aller avec George McPhee. Il n'y a personne qui a vu qu'est-ce que lui a vu. Puis encore là, j'ai de la misère à croire comment est-ce que Vegas peuvent réussir à être tout ce qu'ils sont, même après toute la saison.
Exact.
Il n'y a personne qui est
voyé. J'avais, moi, en 2 puis 3, j'avais Yzerman pour les Lightning. Juste parce que la manière qu'il a construit l'équipe, avec comme la signature de Kucherov, au contrat qu'il a signé, c'était exceptionnel. Ouais. Aller chercher McDonough juste avant les séries, ça, c'est un autre bon coup pour question
ben
d'année.
Oui. Ben oui.
Puis, dans le fond, un peu dans le même scénario, j'ai mis David Poile à Nashville, qu'il est allé chercher Turris en milieu de saison pour... ouais, il a quand même donné un petit peu, mais je veux dire, David Poile, il fait tout le temps des bons moves, on dirait.
C'est lui qui a le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale, me semble, hein, David Poile.
Ben, David Poile, on parle du GM.
Ouais, du GM.
Ah, je sais pas, je suis pas au courant.
Ouais, je suis pas mal sûr que c'est lui qui a le plus
mais de... Mais c'est un gars que quand tu le vois faire des échanges, c'est rare que, mettons, 5-10 ans plus tard, tu fais comme moi, il a perdu cet échange-là. On dirait qu'il connaît tous les moves en avance. Fait que je vais le mettre dans mon top 3, mais un peu comme le Jack Adams, je pense que McPhee, c'est assuré qu'il va le gagner juste parce que la saison puis les attentes de Vegas.
Fait que je pense que oui. Puis en dernier pour les trophées, le Bill Masterton, le joueur avec la meilleure sportsmanship, la meilleure persévérance.
Vas-y, toi...
Non, je veux t'entendre voir qui tu vas y aller, parce que tu le cherchais tantôt, là.
Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que j'ai peur de dire qu'est-ce que mon choix, fait que dis ton choix, puis je vais le changer, peut-être, dépendamment de c'est quoi ton...
Ben moi, je l'ai donné à Fleury.
OK.
Après avoir passé toute sa carrière avec Pittsburgh, des blessures, revenir comme ça, puis dominer autant, je pense que c'est... Puis écoute, c'est un joueur qui est excellent pour Vegas, il se donne toujours pour les fans, donc je le donne à Fleury. Toi?
Écoute, moi je suis allé avec Joe Thornton, je t'explique pourquoi.
Okay.
Thornton, dans le fond, en ce moment, il est blessé.
Ouais.
Il y a eu au ACL ou MCL, je me souviens plus trop, un ligament dans le genou. Puis il va revenir probablement pour la fin de la saison ou le début des séries. Mais il devrait être là. Puis je pense qu'il connaît quand même une bonne saison compte tenu de son âge et tout ça. Puis c'est quand même un gars qui a été capitaine pour les Sharks pendant longtemps. Et c'est pas récent qu'il s'est fait enlever son C, mais. C'est quand même un gars à son âge qui continue à persévérer à travers tout. Puis malgré son âge, c'est quand même un joueur relativement dominant encore. Puis je pense qu'une fois qu'il va être revenu de sa blessure, ça va être une grosse atout pour les Sharks en série. Fait que,
okay.
C'est un peu là que j'étais allé. Ça, c'était peut-être la catégorie que j'étais un petit peu moins confortable.
Moins certain. Il y a un gars comme Eric Staal aussi qui
pourrait
l'avoir.
Ouais, ça, c'est
retour en force d'Eric Staal avec 68 points déjà. Fait que lui,
c'est hey, what do you say, Eric Staal? Ça, c'est le commentateur des Hurricanes qui faisait ça dans le temps.
Ouais, back in the days. Ça. Moi, Fleury, Staal qui pourrait l'avoir. C'est ça. Fait qu'on peut passer aussi. Donc, la prochaine catégorie, là, dans le fond, de qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est de comparer deux joueurs. Puis, ça, je vais dire deux joueurs, puis je vais demander à Chris de décider. Qui prendrait l'un d'eux.
Moi aussi, j'en ai écrit une coupe.
Ah, t'en as écrit une coupe, ok.
Ouais.
On s'est pas parlé, fait qu'il saura pas qu'est-ce que j'y demande, puis vice-versa. Ok, fait que je
peux... Fait que ben, ça, on va les mêmes.
Je peux peut-être que ça me surprendrait pas, je vais commencer.
Ouais.
Laine Ovechkin.
Ah, Chris, ok. Là, quand tu me demandes cette question-là, est-ce qu'on considère les contrats, puis est-ce qu'on considère l'âge et tout ça, ou on parle, mettons, pour les prochains 3 ans?
Prochains 3 ans.
Parce qu'on s'entend que si tu me demandes qui je prends entre Laine et Ovechkin pour les prochains 10 ans, ça va être Laine.
Prochains 3 ans.
Prochains 3 ans. Avec contrat et tout?
Mm-hmm.
Ouais. Écoute, hein, c'est tellement difficile parce que je pense que Laine, il est vraiment près d'Ovechkin. Mais je vais quand même prendre la constance d'Ovechkin parce que Laine, je sais pas à quoi m'attendre. Oui, ça fait 2 bonnes saisons qu'il y a, mais Ovechkin, je veux dire, tu peux le mettre à toutes les années avec un minimum de 30 buts facile. Puis
ben,
là, J'y vais mollo, là. Fait que, oui, il est peut-être pas reconnu comme un gagnant, mais je pense que t'as pas le choix d'y aller avec son track record, puis Ovechkin. Toi, okay.
Ben non, si je te pose la question à toi, je m'en marque pas là-dedans.
C'est bon.
Ok, t'en as-tu, toi?
Ouais, ben, c'est un peu poche, là, parce que là, je vais reprendre l'aîné. Fait que là, la grosse comparaison, tu sais, un peu Crosby-Ovechkin.
Ouais.
La comparaison, depuis qu'ils se sont fait drafter, c'est l'aîné-Matthews. Fait que, je vais te laisser y aller un peu là-dessus, là. C'est pas le même type de joueur en plus.
Non, puis ça me fait penser à Crosby et Ovechkin qui se font comparer à chaque année. J'irais tout de suite avec Matthews. J'ai comme l'impression que Matthews va pouvoir avoir plus de succès. Puis ça va être un gars qui va être capable de se rendre plus loin dans les playoffs.
Peut-être un petit peu moins de succès, genre.
Peut-être un petit peu moins, moins fort offensivement. Puis même encore là, ouais. Matthews, c'est un excellent joueur. Je prendrais Matthews parce qu'il est meilleur dans les deux sens de la patinoire. C'est la seule raison pourquoi j'irais avec Matthews. Parce que c'est sûr que Lainey, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur sniper de la Ligue nationale. Ouais. Présentement. Même en avant d'Ovechkin. Mais j'irais quand même avec Matthews.
Ben, je pense aussi la position qu'il joue. Quand tu es un club, mettons, qui voudrait rebuilder ou partir une équipe à neuf, un centre, ça a tout le temps plus de valeur qu'un ailier juste parce que à cause des responsabilités.
Ben, c'est ça.
Moi, je dirais pas qu'est-ce que j'en pense là-dessus parce que je suis un fan des Maple Leafs puis c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ben, je pense que vous savez qu'est-ce que.
Fleury, Rene.
Ah, Rene.
Rene?
Ouais, Rene, ouais. Toi?
Ok. Ben, probablement, j'irais que Rene aussi. Ouais, Fleury, une excellente saison, mais je pense que Rene, pour les prochaines 3 ans, va être un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien.
C'est ça, puis un autre chose qui est peut-être pas un petit peu moins important pour les gardiens, mais Rene, c'est un des meilleurs gardiens
contrôler la puck.
Ben, pas contrôler la puck, je vais utiliser de l'anglais, mais handler la puck comme à l'arrière du net. Fait que je pense que.
Contrôler la puck en arrière du net.
Ben, c'est ça. Fait que je pense ça l'aide un peu, je pense ça l'aide un peu ses défenseurs, tandis que Fleury, c'est pas quelque chose qu'il aime bien faire. Fait que. Ça, c'est quand même un atout à une équipe. Là. Fait que, ouais.
Crosby, McDavid. Prochain 3 ans. Oublie pas.
Écoute, McDavid est tellement prêt en ce moment de dépasser Crosby. Si tu me demandes, je vais répondre à ta question. Là. Dans le fond, je vais prendre McDavid parce que Crosby, je suis pas certain où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière. Si tu me demandes demain, tu t'en vas dans les séries avec ces deux joueurs-là, même à l'âge qu'ils sont, je prends Crosby sans même hésiter.
Ben non, là, je te pose la question. Mais Crosby ou McDavid?
Ouais, McDavid est rendu là.
Moi, je prends Crosby pour les 3 prochaines années. McDavid ne fait pas les playoffs. Crosby les fait année après année. Il y a du leadership. Oui, il y a peut-être des meilleurs joueurs avec lui, mais encore là, tu rends
les
gars.
C'est drôle, il va te
popper, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On écoute la game de Toronto est finie. Toronto gagnant shootout. On écoute Pittsburgh contre les Blue Shirts. Non, moi je prends Crosby. Quand ton meilleur joueur, ton capitaine, ton leader, il va rendre les gens autour de lui meilleurs. Puis oui, McDavid est excellent. Draisaitl a été blessé cette saison, mais je vois pas le même leadership que Crosby a. Peut-être que c'est parce que McDavid est jeune encore, mais pour les prochains 3 ans, tu peux pas ôter Crosby. À chaque année, tout le monde dit « Ah, Crosby va ralentir. » Puis après, c'est qu'il sort des saisons de fou.
Mais McDavid, qu'est-ce qui est incroyable, c'est juste son explosion. Il y a tellement une explosion comme hors de... Il y a pas un autre joueur qui est comparable à lui. Peut-être son coup de patin est comparable, mais je veux dire juste la manière qu'il est capable de contrôler la puck à haute vitesse quand il patine, c'est... Comme, j'ai jamais vu un joueur faire ça.
Tu sais, Chris McDavid, il est 8 points en avant de Crosby, puis ils disent que Crosby a une année off présentement.
Mais McDavid non plus, il a eu quand même un cold streak. Là, il est en feu, surtout avec les buts dernièrement. On s'en fout un peu, parce que son équipe n'ira pas nulle part.
Ben, c'est ça.
Mais, en tout cas, moi, je vais avec McDavid.
Ok, bon, tu vois, moi, je vais avec Crosby.
Je vais y aller avec moi, peut-être, une comparaison. Dans le fond, Seguin ou McKinnon?
Seguin ou McKinnon? Chris, c'est difficile. C'est deux gars qui ont pas le même style de jeu du tout. Seguin va être plus un sniper. Va être plus un gars qui va lancer au but. McKinnon va contrôler le jeu. Un gars avec des meilleures mains que Seguin. Moins bon shot.
Quand même un excellent shot. Là,
moi, j'y vais avec McKinnon.
OK.
Ouais.
Moi, je serais d'accord avec toi là-dessus. Juste parce que Seguin, c'est un gros sniper. Mais je pense que McKinnon il est un petit peu meilleur...
Overall,
là, lui c'est un gars un peu comme McDavid aussi, que quand il pogne la puck, il est capable de. Il a pas un piano sur le dos, comme qu'on dit. Là, fait que, il est capable de patiner assez rapidement et de faire des bons jeux. Fait que, moi aussi, j'irai avec McKinnon.
Okay. Écoute, j'en ai un excellent pour toi et je suis content de pas devoir répondre à celle-là.
Ouais.
Malkin ou Kucherov?
Malkin.
Aussi rapidement que ça. Hein?
Ouais, ben écoute, je suis un gros fan de Kucherov, mais Malkin. À part, je veux dire, dernièrement, depuis que Kessel s'est rajouté, lui aussi, il est un peu comme Crosby, il joue avec des alliés moyens, comme, tu sais, il joue avec des gars comme Hagelin et tout ça, fait puis, je veux dire, une saison, ils ont gagné la coupe pratiquement à cause de lui, il a été le Conn Smythe winner. Kucherov, oui, en ce moment, il a le plus de points, mais son équipe, je veux dire, juste la ligne qu'il jouait au début de l'année avec Stamkos puis Namestnikov, tu sais, il ramassait des points comme ça se pouvait pas. Tandis qu'à Malkin, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, le centre, il y a une responsabilité pas mal plus grande qu'un allié. Fait que pour moi, je vais tout le temps prendre le centre avant l'ailier quand ils sont environ even. Fait que je vais y aller avec Malkin. Puis en plus, je sais un peu de quoi qu'il est capable dans les séries. C'est un gars qui élève son jeu. Fait que,
je suis d'accord, je vais prendre Malkin moi aussi.
Okay. Un gars que d'après moi, juste en passant, il y a eu le top 100 il n'y a pas longtemps. C'est-tu cette année ou l'année passée qu'il y a eu le top 100 des meilleurs joueurs de tous les temps? Malkin n'était pas dedans. Je pense qu'il a sa place là maintenant. Alors, en tout cas, d'ici la fin de sa carrière, c'est sûr qu'il va être là-dedans.
Bon, je suis certain qu'il va l'être. Brock Boeser ou Matthew Barzal? Ça vient toucher un peu, ça vient un peu toucher au...
Rangers aiment de tailler la game avec 5 minutes dans la game.
2-2. Pittsburgh, ben, Rangers.
Rangers s'en allait pas, malheureusement. Mais, ouais. Ou heureusement, dépendamment. Mais...
Brock Boeser ou Matthew Barzal?
C'est tellement deux gars qui sont sortis de nulle part. C'est vraiment une excellente comparaison.
Mais encore là, attention, tantôt tu parlais, c'est quoi les deux choix que tu m'as donné tantôt là?
Pour le Calder, tu parles?
Tu me disais tantôt soit Seguin
ou McKinnon.
Je pense que c'est un peu le même style.
Ouais.
Boeser va être plus un sniper, va être plus un gars qui a un bon lancer, tandis que Boeser, c'est un gars de la vitesse, des bonnes mains qui va te déjouer. Fait, moi, j'irais avec Boeser.
Moi, j'irais avec Boeser, je suis pas vendu de Boeser encore. Je pense que ça va dépendre de sa deuxième saison. Je pense qu'il y a des gars comme ça qui sont un peu comme plus petits en stature. La deuxième saison est tout le temps un petit peu plus difficile à s'adapter. Comme dans le fond, Marner, cette année, en début de saison, il avait un peu de la misère. Là, il est en feu derrière moi, mais je pense qu'on a un petit peu
mais plus c'est la même chose.
Parce que quand tu as un shot comme Boeser, je pense que peu importe, même si tu es un rookie ou non, tu vas tout le temps réussir à compter des buts. Puis Vancouver, je veux dire, ils n'ont rien en attaque présentement. Ils ont une couple de bons jeunes qui s'en vient, Peterson. Puis,
Je suis pas d'accord. Non? Je suis pas d'accord. Oui, t'as un bon lancer, mais il faut que tu sois capable de trouver le temps de faire ton lancer. Fait que le reste du jeu, faut que tu sois là aussi.
Ben, trouver le temps, je veux dire, Lainé, il a pas besoin de beaucoup de temps pour shotter, là, puis compter des buts. Fait que c'est un peu la même chose.
Ouais, mais là, Boeser. Tu compares pas Boeser puis Lainé, là. Boeser, c'est sa première année.
Il y a quand même un release assez incroyable, Boeser. Puis écoute, Vancouver, c'est une équipe que j'ai toujours pas vraiment aimé. Je sais pas vraiment pour quelle raison, mais bon. Fait que je suis le premier à pas vraiment donner crédit à Vancouver, mais Boeser, il m'a vraiment épaté cette année. Je dis pas que Barzell
c'est
il est pas meilleur.
C'est juste à cause de ses cheveux, tu l'aimes. T'en parles tout le temps.
Ben oui, c'est ça, c'est la flow. Là.
Parce que juste pour vous dire, Christopher Raymond, il a des cheveux blonds, longs, quand même à moitié du dos, fait qu'il trouve que Boeser.
Ouais, c'est un petit peu plus. Il curle un petit peu moins que notre chum Mathieu Leclerc dans le temps, là, mais bon, ça c'est une autre conversation pour un autre jour.
Hashtag inside.
Ouais.
Ok, j'en ai un autre pour toi. Hedman Klingberg.
J'hésite même pas.
C'est une facile, moi aussi.
Klingberg, même s'il y avait 15-20 points de plus, j'irais avec Hedman juste parce qu'il est trop fort défensivement, Hedman.
C'est une facile, celle-là.
Exact.
Ok.
Tu t'en donnes une?
Oui, vas-y, t'en as d'autres.
Écoute, laisse-moi passer deux secondes. Je vais y aller. Je vais comparer des équipes canadiennes, probablement que peut-être qu'on voit un petit peu à tous les jours à télé. Pacioretty ou Mark Stone?
Pacioretty ou Mark Stone? Je prends Mark Stone.
Ok.
C'est deux joueurs que je voudrais pas dans mon équipe.
Ben non, arrête toi.
C'est deux joueurs que je voudrais pas dans mon équipe.
T'aimerais mieux avoir.
Je vais prendre Mark Stone parce que c'est un gars qui est toujours le plus de turnover, de takeaway. Pacioretty, oublie ça, j'aime tellement pas ce joueur-là. C'est unidimensionnel. C'est un shooter qui aime pas shooter. Il essaye toujours de faire des jeux de main, il essaye de toujours patiner avec la puck. C'est pas ça sa game. Tant qu'il comprendra pas ce joueur-là que c'est pas toi côté des nets, attends la passe puis shoot. Tant qu'il comprendra pas ça, ça va toujours donner des saisons coup-ci, coup-ça. T'sais, il y a toujours beaucoup de buts, mais il sera jamais un joueur dominant dans la Ligue nationale s'il comprendra pas ça.
Je vais reprendre un autre joueur des Canadiens, peut-être aussi une dernière petite comparaison pour moi. J'ai vu beaucoup ces deux joueurs-là comparés. Sur internet, Jonathan Drouin pour les Canadiens ou Mitch Marner des Maple Leafs.
Alors, je prends Mitch Marner 100%.
Ok.
Drouin, je pense que Yzerman a joué cette game là d'une façon de maître. C'était une partie d'échec puis Yzerman a brûlé Bergevin. Il a été chercher la valeur, le plus de valeur possible à Drouin. Il est allé chercher Sergachev. Bergevin s'est fait brûler là-dessus parce que Drouin, son attitude, c'est 0 plus une barre. C'est un joueur qui se donne pas à chaque partie.
Mais c'est quand même, au niveau du type, c'est quand même deux joueurs très similaires. C'est deux playmakers. Comment je pourrais dire? deux joueurs quand même un petit peu plus petits en stature, fait qu'ils sont quand même comparables, je pense, à ce niveau-là.
Mais je pense que Marner est plus explosif. Marner va avoir une meilleure carrière que Drouin.
OK.
Bon. C'est 100% sûr. Vasilevski ou Price, prochain 3 ans?
Ben, surtout, on a dit au début qu'on comptait les contrats. Je peux pas avoir une équipe avec le contrat de Price, qui est peut-être encore le meilleur gardien de la ligue, mais je pourrais prendre Vasilevski. Même si ça fait juste une saison qui nous montre qu'est-ce qu'il est capable, juste à cause du contrat négatif de Price, je n'ai pas le choix d'y aller avec Vasilevski.
Moi, tout, je prends Vasilevski. Taylor Hall ou Brad Marchand?
Oh shit, ça c'est une bonne.
C'est pas pire, hein?
Boston, présentement, c'est l'équipe dans la ligue que j'haïs le plus. Mais malgré ça, je vais prendre Marchand parce que je pense que s'il jouerait avec Toronto, je l'adorais, ce joueur-là. C'est vraiment un joueur exceptionnel en attaque. Puis il fait tout ce que tu as besoin. Je pense qu'il y a un peu quelques cochons qui étaient un peu chanceux d'avoir pas beaucoup de matchs de suspension juste parce que c'est un joueur étoile. Taylor Hall, il est un petit peu comparativement offensivement. Mais il amène pas les mêmes éléments défensivement, puis tu sais comment qui est une peste, Marchand, dans le fond.
Marchand t'amène tout. Il est incroyable.
C'est ça.
Marchand aussi.
Toi aussi, ouais.
Puis le dernier, Tavares ou Seguin?
Ouf, ça c'est une bonne comparaison, encore une fois.
Tu vois, moi je le vois pas aussi difficile que ça.
Non? Toi tu prends qui?
Je prends Tavares, okay. C'est un long shot.
Moi aussi, la seule affaire avec Tavares, c'est qu'il a jamais eu un bon coup de patin, puis plus qu'il va vieillir... est-ce que ça va partir malgré que c'est un gars qui se fie pas vraiment sur son coup de patin pour jouer, fait que je pense je l'ai un peu dit là, j'irai avec Tavares, puis quoi, j'aimerais beaucoup ça le voir avec les Maple Leafs, mais ça je pense qu'on va en parler dans notre prochain segment là.
Ouais, non, moi aussi c'est Tavares, c'est sûr. On peut peut-être passer vite sur les prochains UFA là, j'en ai pris une coupe. Mike Green, est-ce que tu le signerais toi?
À Toronto, non, mais je le vois pas rester à Détroit, évidemment. Je le vois signer peut-être plus avec une équipe d'expérience.
Ouais. John Carlson?
Je pense pas que Washington peut permettre de perdre Carlson, parce que c'est leur seul gros défenseur qui leur reste.
Ouais.
Mais je sais pas quel genre de salaire qu'il va demander, parce que ça va être le défenseur avec le plus de valeur, si on veut, sur le marché. Fait que, ouais.
OK.
Rangers vient de tailler à game, by the way.
Oh, c'est sacrifice 3-3, là.
C'était fou, ça.
Ben oui. Patch Ready, il reste à Montréal, tu penses?
Il est-il agent libre cette année?
Non, il est pas agent libre.
Non, okay. Ça m'étonnerait pas si Montréal assigne un reset juste parce qu'il pense.
Ils sont obligés d'essayer un reset.
Non, non, mais je parle pas d'un rebuild, je parle d'un reset dans le sens qu'ils gardent la même core puis ils revoient s'ils sont capables de gagner avec ce core-là. Moi, je pense que ça serait pas la bonne stratégie du tout.
Ben non.
Mais c'est ce que je m'attends parce que les fans, je veux dire, ils veulent voir une équipe gagnante puis. Ça ne tente pas nécessairement de voir un rebuild, malgré qu'il commence peut-être à se réchauffer à l'idée.
Ben, mais... il faudrait qu'il fasse ça. Mais... Price, il reste ou il quitte?
Ah, Price, il reste, je veux dire...
Personne ne va vouloir trader.
Le contrat, il est juste trop difficile à trader présentement.
OK. Evander Kane signe ou signe pas avec San Jose?
Je pense pas qu'il signe avec San Jose, non.
Toi? Moi, je pense qu'il va signer avec San Jose. Ah ouais? Okay. Juste le fait que Thornton soit été cherché à l'aéroport, que ce soit Thornton qui reste avec Thornton, présentement avec Pavelski... lui et Pavelski ensemble, c'est il a redonné de la jeunesse à Pavelski.
Mais regarde, moi la raison, je sais pas où est-ce qu'ils sont dans leur cap, faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais je vais te donner la raison peut-être un peu plus tard pourquoi que quand on va venir à d'autres agents libres dans le fond, pourquoi que je vois pas Kane signer là.
Tavares signe ou signe pas?
Ouais, merci, tu viens de la porter le point. C'est un spot que je vois Tavares signer, c'est avec le San Jose. San Jose ou Saint Louis, c'est deux fortes possibilités, je pense.
Saint-Louis, du tout.
Non?
Du tout. Je pense pas qu'il va aller signer là. San Jose, je vois pas Tavares avec San Jose. Je vois plus Tavares avec Détroit que Tavares.
Je savais que t'allais dire Détroit, mais c'est parce que, écoute, le gars, il a perdu. Il a fait une coupe de ronde avec les Islanders. Détroit est pas prêt à gagner maintenant. Là.
Non, mais Détroit, années, ça. Là. Oui, mais Détroit, c'est Détroit. Islanders, ils bâtissent mal à chaque année, mais moi, je pense que c'est soit Détroit ou Irsing avec Islanders.
Je pensais à New York en début d'année, mais plus non. Ça va, plus je me dis, je pense pas qu'il va re-signer là. Fait que là, moi je le vois signer un hometown discount avec les Maple Leafs à 10 millions par année.
Ben oui, oublie ça.
On s'entend qu'à Montréal, il est quand même plus réel probablement que celle des Canadiens.
Bah c'est sûr. James Neal, tu signes? Tu signes pas?
Je pense que Vegas, ils n'ont pas le choix de le signer. C'est le seul gros joueur qui a un gros contrat à part Fleury.
Mais tu lui donnes un contrat parce qu'il va demander un contrat plus à long terme.
Ouais, c'est ça. Il va demander au moins 5 ans. Ouais. Ben, moi, je pense qu'ils peuvent se le permettre, Vegas. Ils n'ont pas de gros contrats en ce moment. Fait que...
okay.
Sinon, il va y avoir un marché pour.
Rick Nash?
Rickner, je pense pas qu'il va re-signer avec Boston. Boston, non. Ils ont trop de jeunes en ce moment. Ouais. Je sais pas où est-ce que je le vois, Rick Nash. C'est... Rick, je le vois pas re-signer avec Boston.
Rick Nash, je me surprendrais pas qu'il y ait à San Jose. Lui.
Ah ouais?
Ouais. San Jose, ils ont toujours eu le style d'aller chercher des joueurs ou de garder des joueurs qui étaient un petit peu plus vieux, mais qui jouaient bien ensemble. Fait que je le vois aller à San Jose. JVR, James Van Rensselaer.
Je le vois pas re-signer avec Toronto. Écoute, c'est pas mon joueur favori, malgré que, je veux dire, il compte depuis quelques saisons, il compte à quasiment toutes les saisons 30 buts. Toronto, dans le fond, leur force au farm team, c'est la profondeur au niveau de l'aile, puis dans le fond, lui, c'est un ailier. Fait que je pense qu'avec les gros contrats qui s'en viennent aux trois gros joueurs d'attaque, Nylander, Matthews puis Marner, ils peuvent pas se permettre de donner un gros contrat, malgré que je sais pas, peut-être que JVR est prêt à accepter un plus petit contrat.
Fait que, moi, je pense que ce gars-là peut aller peut-être avec les Rangers ou peut aller avec Arizona.
Ouais, ça peut être des possibilités, là, des équipes qui ont un peu d'argent à donner, ouais.
Ok, on va essayer de faire ça plus vite parce que ça fait déjà pratiquement une heure. Thomas Vanek.
Ouais, il va retrouver un autre club, mais il ne signera pas à Columbus. Non, c'était juste,
non, je pense
juste
pas pour le Cup Run. Mais écoute, ce gars-là, à chaque année, il continue, il roule sa bosse.
Ouais.
Moi, je le signerais juste pour un an parce que tu sais qu'est-ce que tu t'attends. Thomas Vanek te donne toujours la même affaire.
Mais attends, t'as peut-être le voir signer avec Buffalo l'année prochaine, un
ben,
an.
Ça fait deux ans qu'il redemande de signer avec Buffalo. Ah, ouais. C'est Buffalo qui dit non. Okay. Et je sais. Moi, je le signerais parce que le pire des pires, tu l'échanges à la date limite des transactions puis tu vas te chercher
un 5 donne grand, un atout, ouais,
Paul Stachny, tu le signes pas?
Winnipeg ne le signeront pas, non, mais il va se tailler une place, c'est sûr, à quelque part. Là.
Moi, je le prendrais pas dans mon équipe. Ce gars-là m'a jamais impressionné. Mais, OK, Calvin DeHaan?
Avec les Islanders?
Les Islanders, je le signeront pas.
Non, là, ça, c'est sûr, d'après moi.
J'ai passé une journée avec lui au Mélil, ah ouais? Cet été au Thousand Island.
Okay.
Un bon gars, mais il est gros comme une couille. Là.
Ah ouais, c'est pas gros. Okay.
Oh ouais, c'est tout petit.
Ouais, je sais pas à quel club je le verrais, honnêtement, mais je pense pas qu'il va signer avec les Islanders.
Ok. Puis Hornquist,
ça fait quand même une couple de saisons qu'il est avec Pittsburgh. Je sais pas s'ils veulent le garder. Il commence à être un peu plus vieux. Il a la POC en ce moment. Hein, c'est weird ça. Il va se trouver une place, je pense. Si je pense vite ça, peut-être une équipe comme Philadelphie, mais dans l'autre l'autre ville de Pennsylvanie, ouais. Fait que ça serait peut-être possible.
Ben, ça me souviendrait pas que Pittsburgh leur signe par contre à rabais plutôt, mais encore là, Pittsburgh, ça pourrait être une équipe qui va chercher un gars comme JVR, mais ils vont demander un salaire plus haut, c'est ça l'affaire.
Exactement, ouais.
Mais il fait très bien dans le club par contre.
Ouais.
Bon, mais je pense qu'on a fait le tour un peu des sujets qu'on avait aujourd'hui. Donc j'aimerais vous remercier d'avoir été là encore aujourd'hui. Allez liker notre page sur Facebook.
Sherry, likez,
commentez les Chris Antisportifs. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, les bons, les mauvais commentaires, on veut tout savoir.
Des sujets peut-être aussi, surtout que.
Surtout les
là,
sujets.
Je veux dire, c'est sûr qu'on va parler des séries, mais que ça se rapproche, les brackets, tout ça. Mais il y a quand même divers sujets qu'on pourrait parler d'ici là. Fait que. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous trouveriez le fun qu'on parle.
Parfait. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, whatever. Donc, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine.
Yes, sir, Miller.